VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du lundi 29 août 2016. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Tout d'abord les titres.
Au Gabon, on attend demain les résultats de la présidentielle de samedi.
Le dialogue politique en RDC débute le 1er septembre. C'est l'une des principales conclusions des travaux du comité préparatoire à Kinshasa.
En Libye, le porte-parole gouvernemental annonce que l'ultime bataille de Sirte a commencé.
L'intervention militaire de la Turquie dans la guerre en Syrie semble prendre de l'ampleur.
Au Brésil, Dilma Rousseff, aujourd'hui devant le Sénat, pour se défendre personnellement dans son procès en destitution.
Et ne manquez pas notre page sport, ainsi que la Minute Éco, pour l'instant, le journal.
Au Gabon, on attend donc demain les résultats de la présidentielle de samedi. Par crainte de violence, la plupart des magasins, pharmacies et restaurants étaient fermés pendant le week-end. Chaque camp crie victoire. Retrouvons notre envoyé spécial à Libreville, Idriss Fall.
Le ministre de l'Intérieur a déjà annoncé que les résultats seraient annoncés mardi, c'est-à-dire 72 heures après le scrutin, comme le demande la loi électorale. Hier, l'opposant Jinping, devant ses militants, a déjà clamé une victoire et a essayé de rassurer ceux qui n'ont pas voté pour lui pour dire qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Et immédiatement après, le président sortant aussi a rassemblé ses militants non loin de la maison de Jinping pour les appeler au calme et assurer que lui, il est confiant et tout le monde attend les résultats. C'est la CEDAP qui doit d'abord les proclamer ce lundi au plus tard pour les transmettre au ministère de l'Intérieur. Beaucoup d'observateurs s'attendent à des révoltes si le verdict des urnes n'est pas respecté. Depuis Libreville, Idriss Fall, La Voix de l'Amérique.
Le gouvernement nigérian formule de nouvelles propositions pour des pourparlers éventuels sur les otages de Chibok. Cher Ruben Dorsil, pour des précisions.
Dans une déclaration à la presse hier dimanche, le président Muhammadu Buhari s'est dit prêt à laisser Boko Haram choisir un organisme sans but lucratif comme intermédiaire dans toutes les discussions sur la libération d'environ 200 écolières enlevées en 2014 dans le nord-est du Nigeria. Monsieur Buhari avait déjà fait une offre de négociation sur le dossier l'an dernier, mais le groupe extrémiste n'a pas fait de commentaire sur la proposition. L'échec du Nigeria dans la recherche des filles de Chibok a provoqué un tollé au pays et à l'étranger. Souvenez-vous, les critiques du prédécesseur de Buhari, Goodluck Jonathan, avaient déclaré que son gouvernement était trop lent à agir. S'ils ne veulent pas nous parler directement, qu'ils choisissent une ONG reconnue internationalement, a dit le président Buhari en marge d'une conférence au Kenya. Selon le dirigeant nigérian, des négociations pourraient commencer sur un échange de prisonniers si Boko Haram pouvait fournir des preuves à l'ONG que les filles sont toujours sous son contrôle. Des négociations avec Boko Haram seraient les premiers entretiens connus du public entre le gouvernement et les salafistes, dont 7 ans d'insurrection pour créer un État islamique dans le nord du Nigeria ont entraîné la mort d'au moins 15 000 personnes.
En Libye, au moins 34 combattants libyens sont morts et plus de 180 ont été blessés dimanche, alors qu'ils s'approchaient des dernières poches de résistance de l'organisation État islamique à Sirte, a appris l'agence Reuters de sources hospitalières. Les forces du gouvernement d'Union nationale, appuyées depuis le 1er août par des frappes aériennes américaines, ont confiné les djihadistes dans une petite zone résidentielle de Sirte. Après une pause d'une semaine, les combats ont repris dimanche. Pour citer Reda Issa, porte-parole des forces pro-gouvernementales, l'ultime bataille de Sirte a commencé.
L'émissaire spécial des États-Unis pour le Soudan et le Soudan du Sud a débuté hier une visite à Khartoum, la capitale soudanaise. Au cours de ce déplacement qui doit s'achever jeudi, Donald Booth rencontrera des représentants du gouvernement, de la société civile et d'ONG. Selon le département d'État américain, il doit se rendre dans l'État frontalier du Nil Bleu dans le sud, en proie à une rébellion armée.
En Tunisie, le nouveau gouvernement d'Union nationale prend ses fonctions après une cérémonie de passation de pouvoir entre l'ex-premier ministre Habib Essid et son successeur Youssef Chahed. Cette nouvelle équipe gouvernementale fera face à plusieurs défis majeurs, nous dit le journaliste Noureddine Bouta.
Le premier, c'est le défi du terrorisme, puisque la Tunisie a été sujet de plusieurs attaques depuis quelques années. Et puis, il y a le défi économique, et puis il y a les mouvements sociaux qui sont en train d'influencer négativement les activités économiques, telles que le pétrole et le phosphate. Sur le plan populaire, les gens, ils attendent un signe du gouvernement, notamment la relance économique, la lutte contre la corruption, qui commence à faire beaucoup de bruit en Tunisie, puisque avant la révolution, c'était l'œuvre de la famille du président. Et là, actuellement, ça s'est un peu popularisé. Il y a la corruption partout.
Est-ce que ce gouvernement a les moyens de sa politique ?
La situation, elle paraît tellement compliquée qu'il faut un gouvernement qui prenne des décisions fermes, qui fait une bonne communication, surtout vis-à-vis du peuple, pour qu'ils puissent être convaincus avant d'utiliser les moyens sécuritaires. La situation demande une mobilisation totale pour qu'on puisse sauver l'économie tunisienne qui coule depuis 5 ans.
Noureddine Bouta, directeur de la radio privée Mosaïque FM à Tunis, au micro de Chérubin Dorsil.
Environ 1100 migrants ont été secourus dans le canal de Sicile hier, alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Europe en bateau. Les gardes-côtes italiens n'ont pas précisé leur pays d'origine. Selon l'OIM, 105 342 migrants ont rejoint l'Italie en bateau cette année, la plupart depuis la Libye. L'OIM estime en outre que 2726 hommes, femmes et enfants sont morts pendant la même période au cours de la dangereuse traversée à bord de petits bateaux souvent surchargés et inadaptés à un tel voyage.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'intervention militaire de la Turquie dans la guerre en Syrie semble prendre de l'ampleur, notamment avec la volonté affichée par le président Recep Tayyip Erdogan de frapper tant le groupe État islamique que les rebelles kurdes qui combattent le régime de Bachar al-Assad. Jean-Roger Bion nous en dit plus.
Les bombardements de l'armée turque ont fait des dizaines de morts dimanche dans le nord de la Syrie, le même jour où le président Erdogan a promis de lutter avec la même détermination contre les djihadistes et les forces kurdes. Le dirigeant turc s'engage à tout faire pour que la frontière soit protégée. Il a fait cette déclaration 5 jours après le début d'une offensive de l'armée contre le PKK ou Parti des travailleurs du Kurdistan et le Parti de l'Union démocratique, principale formation politique kurde en Syrie. Une cinquantaine de chars et des centaines de soldats turcs sont entrés en Syrie depuis mercredi dans le cadre de l'opération bouclier de l'Euphrate. Également pris pour cible, le groupe État islamique que M. Erdogan a décidé de chasser loin de ses terres. En déplacement à Gaziantep dans le sud-est de la Turquie, une semaine après un attentat portant la marque de Daesh qui a fait 55 morts pendant un mariage kurde, il a lancé à la foule « Nous n'accepterons aucune activité terroriste à ou près de nos frontières ». Le bilan de l'opération varie de 25 Kurdes ou alliés tués selon le gouvernement à 40 civils selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Néanmoins, l'armée turque affirme avoir pris toutes les mesures pour empêcher que les populations civiles ne soient touchées.
La Colombie vit une journée historique ce lundi avec l'entrée en vigueur du premier cessez-le-feu bilatéral et définitif jamais signé entre la guérilla des FARC et le gouvernement, et ce, au bout de 52 ans de conflit armé.
Au Brésil, la présidente suspendue Dilma Rousseff comparaît aujourd'hui devant le Sénat pour se défendre personnellement dans son procès en destitution. Il s'agit là d'une ultime intervention avant sa probable éviction, point final à 13 ans de règne de la gauche dans le plus grand pays d'Amérique latine. Madame Rousseff aura la parole durant 30 minutes et décidera ensuite si elle accepte ou non les questions des parlementaires qui, dans ce cas, auraient chacun 5 minutes pour s'exprimer. Puis suivront de longs débats et le vote finale attendue mardi ou mercredi.
Présidentielle américaine 2016, le candidat républicain Donald Trump a annoncé hier qu'il prononcerait mercredi dans l'Arizona le discours sur l'immigration clandestine attendu depuis plusieurs jours. Donald Trump devrait tenter à cette occasion de mettre fin à la cacophonie qui entoure ses intentions sur le sort des 11 millions de sans-papiers présents aux États-Unis. Après avoir longtemps déclaré qu'il comptait en expulser la totalité, Trump a semé le trouble mardi dernier en lâchant qu'il pourrait assouplir son plan avant de se reprendre et d'adopter un ton plus dur.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco. John Linden.
La 6e conférence internationale de Tokyo pour le développement en Afrique s'est tenue ce week-end à Nairobi au Kenya. Les participants ont abordé des sujets aussi divers que l'industrialisation de l'Afrique, l'amélioration des soins de santé et la stabilité du continent. Selon le ministère japonais des Affaires étrangères, près de 21 milliards de dollars sur les 32 milliards annoncés ont été investis dans les différents projets d'assistance lancé à travers l'Afrique ces trois dernières années. Le Burkina Faso envisage d'émettre un eurobond pour financer son plan de développement en 2016-2020 et accélérer ainsi la croissance de son économie. Selon le Premier ministre Paul Kabadieba, près de 9 milliards de dollars sont nécessaires pour mettre en œuvre un plan de développement quinquennal. À noter que l'agriculture et les mines constituent les deux principales sources de revenus du Burkina Faso. L'agence de notation financière Moody's conserve la note BA3 qu'elle avait attribuée en novembre 2015 à la Côte d'Ivoire, ce qui signifie que la perspective est stable.
À présent, les sports avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Football, l'Espérance de Tunis remporte la Coupe de Tunisie.
Victoire 2-0 face à son grand rival, le club africain. Des réalisations de Yassine Kenissi et d'Edem Rejabi. Les Sangs et Or remportent ainsi leur 15e Coupe nationale. Ils représenteront l'année prochaine la Tunisie en Ligue des Champions suite à leur deuxième place en championnat derrière l'Étoile du Sahel. Le club africain, malgré cette défaite, jouera la Coupe CAF.
D'une coupe à une super coupe, celle du Togo pour lancer la nouvelle saison.
Effectivement, une forme de renaissance pour le football national togolais puisque le championnat n'a pas eu lieu depuis 2 ans. Cette supercoupe remportée par le Semasi de Sokodé, champion en titre, vainqueur au tir au but 4-3 devant Koroki de Tchamba, récent vainqueur de la Coupe de l'Indépendance. 1-1 score après le temps réglementaire. Supercoupe également en République démocratique du Congo et c'est le tout puissant Mazembe qui est sorti vainqueur grâce à son succès du 3-1 devant le football club Renaissance. Un triplé du Malien Adama Traoré. La saison souffre ainsi le 9 septembre prochain et on aura la première journée du championnat divisée en 3 zones. Champion en titre, les Corbeaux au centre-sud recevront le FC Dimbumba et puis le choc de cette première journée mettra aux prises à l'ouest le Daring Club Motéba Pembe au FC Renaissance.
Le sélectionneur de l'équipe olympique du Nigeria démissionne.
Oui, Samson Siasia qui a obtenu la médaille de bronze avec le Nigeria à Rio s'en va. Une démission sur fond de désaccord avec la Fédération Nigériane de Football. On se rappelle des conditions de l'arrivée de l'équipe au Brésil seulement à 6 heures de leur premier match. Autre raison avancée pour expliquer ce départ. La fédération lui devrait 5 mois d'arriéré de salaire.
On reste dans le football, mais dans celui des sables, beach soccer, avec les barrages allés de la CAN.
Cette CAN qui aura lieu au Nigeria du 13 au 10 décembre prochain et le champion d'Afrique en titre Madagascar est allé battre le Mozambique 3-2. Signalons la victoire des équipes en déplacement pour ces rencontres. Allez, le Ghana vainqueur au Kenya 10-3, de la Côte d'Ivoire en Tanzanie 7-3 et du Sénégal au Cap-Vert 7-2. Notons la qualification de l'Égypte, du Maroc et de la Libye suite au forfait de l'Ouganda, du Libéria et du Soudan.
Athlétisme, la Réunion de Paris comptant pour la Ligue de Diamants avec un record battu sur le 3000 mètres steeple.
Déjà championne olympique, Ruth Jebet remporte en 8 minutes 52 secondes 78 centièmes le 3000 mètres steeple à Paris. La Bahreïnie d'origine kenyane bat ainsi le record du monde et devance du coup Yvine Kieng et Emma Gobrin. Autre performance lors de ce meeting de Paris, l'Ivoirien Ben Youssef Meïté, 6e à Rio, a remporté le 100 mètres en 9 secondes 96 centièmes. Il égale son record national. Sur les 1500 mètres, c'est le Kenyan Alfred Kipketer qui sort vainqueur en 1 minute 42 secondes 87 centièmes devant l'Algérien Taoufik Makloufi, double médaille d'argent au JO sur 800 et 1500 mètres.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seloulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Gabon, les résultats de la présidentielle de samedi dernier se font toujours attendre ce week-end dans la capitale. Par crainte de violence, la plupart des magasins, pharmacies et restaurants étaient fermés. Au lendemain du vote, chaque camp crie victoire. La campagne électorale a surtout été marquée par des accusations, invectives et insultes, ce qui fait craindre des violences à la publication des résultats. Retrouvons notre envoyé spécial à Libreville, Idriss Fall.
C'est une guerre de communiqués qui se poursuit. Hier dimanche, devant un parterre de militants, l'opposant Jinping a clamé sa victoire sans pour autant s'auto-proclamer président du Gabon.
À tous ceux qui ont fait un choix autre que celui de ma personne, je voudrais les rassurer qu'il n'y aura aucune chasse aux sorcières. Je serai le président de tous les Gabonais. C'est dans l'unité et la concorde que nous célébrerons cette belle victoire.
Pour se faire l'écho, ces militants enflammés ont entonné en chœur Jinping président. Quelques heures après, le PDG au pouvoir a rassemblé ses militants à quelques encablures de la résidence de M. Ping. Le président sortant, Ali Bongo, a eu un discours plutôt modéré, appelant au calme, assurant toute sa confiance en attendant les résultats. Les militants du PDG sont aussi certains de la victoire de leur candidat.
Bien sûr et certain, il va gagner. Ali Bongo, c'est celui qui a le meilleur projet de société. Il a parlé de l'avenir en confiance, alors donc on lui fait confiance.
Les résultats sont attendus au plus tard 72 heures après le scrutin, c'est-à-dire aujourd'hui ou demain mardi. En attendant, sur le déroulement du scrutin, Falilou Diallo, président du groupe des observateurs africains qui représente les ONG de 12 pays du continent.
Un vote calme qui s'est bien déroulé, une participation massive. C'est une belle fête pour la démocratie.
Et vous pensez que les résultats, il y a des risques de contestation ou pas?
Bon, nous sommes en Afrique, hein. Nos démocraties sont très jeunes, sont très fragiles. Donc il y a toujours les perdants qui contestent. Mais faisons confiance à nos institutions où nous pouvons recourir pour contester les résultats. Il n'y a pas d'élection sans contestation de résultats. C'est la marche pour notre démocratie fragile.
Pour parer au pire, l'Union africaine a dépêché sur place une forte délégation des anciens, dont Sylvestre Ntibantou Gagnant, ancien président du Burundi.
Pour un pays qui a su, pendant toutes ces décennies, sauvegarder la paix et la sécurité, et notre souhait est que les différents protagonistes prennent cette expérience comme venant pour consolider ses acquis.
Est-ce que vous pensez que vous serez entendu?
Nous le souhaitons et nous croyons que tous les acteurs politiques sont d'éminentes personnalités et qui donc ne peuvent pas être insensibles à des préoccupations de ce genre.
Depuis Libreville, Idriss Fall, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Le dialogue politique en RDC débute le 1er septembre prochain et durera 2 semaines. C'est l'une des conclusions à retenir des travaux du comité préparatoire qui sont achevés pendant le week-end à Kinshasa. Les délégués du pouvoir, de l'opposition et de la société civile ont tous signé la feuille de route de ce dialogue politique. Une frange importante de l'opposition réunie au sein du Rassemblement, une plateforme politique que dirige l'opposant historique Étienne Tshisekedi, continue de boycotter ce dialogue. De Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, Gino Rehema.
C'est parti pour un dialogue de 2 semaines. Tel a été décidé par les différentes parties déléguées au comité préparatoire. La date du 1er septembre a également été proposée pour le début de travaux du dialogue. Un dialogue qui risque de s'éteindre sans la plus grande plateforme de l'opposition, le Rassemblement, qui pose encore des conditions qui ont été rappelées même par des opposants qui ont pris part aux travaux du comité préparatoire. Les députés Jean-Lucien Boussa et le chef des délégations de l'opposition dans le comité préparatoire.
Que le pouvoir puisse tout mettre en œuvre entre aujourd'hui et le jour du début du dialogue pour que les préalables de l'opposition soient réalisés. Il s'agit des mesures de confiance suivantes. Libération effective des prisonniers politiques, l'abandon des poursuites à caractère politique, la réouverture effective de toutes les chaînes de télé et radio fermées, la restitution des biens confisqués.
Et au niveau de la facilitation, on promet de travailler sur les préalables du rassemblement. Edem Kodjo est le facilitateur du dialogue national congolais.
C'est pour cela qu'entre ce moment-ci et la date qui a été énoncée par mes prédécesseurs à la tribune, à savoir le 1er septembre, pour que des efforts soient déployés par tout le monde en direction de nos frères, des sœurs, qui jusqu'à présent n'ont pas encore rejoint le bercail et la maison commune.
Cependant, à la majorité présidentielle, on se félicite du déroulement des travaux du comité préparatoire avec l'espoir d'avoir un dialogue qui va dans l'intérêt de tous. Le professeur Néhémie Mwilanya est le directeur de cabinet du chef de l'État.
Je suis assuré de ce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a appelé de tous ses voeux la tenue de ce forum, fort de ce qu'il représente pour la nation, est certainement conforté de ce qu'il pense, de ce qu'il a toujours pensé, qu'une fois que les filles et fils de ces pays se retrouvent ensemble, ils savent faire la part des choses entre l'intérêt national bien compris et des divergences à peine mineures. L'espoir que nous formulons en terminant les assises de ces comités préparatoires, c'est qu'au 1er septembre, la famille soit rassemblée au grand complet.
Le dialogue va se tenir dans le respect de la résolution 2277 de Nations Unies. Se sont mis d'accord les participants au comité préparatoire. Ils se sont également mis d'accord sur l'objectif du dialogue, celui de réunir les parties prenantes congolaises afin de réfléchir et d'échanger des voies et moyens de l'organisation d'élections crédibles, transparentes, apaisées et inclusives en République démocratique du Congo. Depuis Kinshasa, Gino Reima de Top Congo pour la VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Au Sud Kivu, la première édition du festival Umoja Grand Lac se poursuit depuis le 27 août. Ce cadre d'échanges culturels et de dialogue entre jeunes des pays de la sous-région des Grands Lacs est organisé par l'association des jeunes The Future for All. Précision avec notre correspondant sur place, Ernest Mouhero.
C'est dans ces beaux cadres du collège Alfadir et à Bukavu que se déroule le festival Umoja Grand Lac, un festival qui connaît la participation des artistes venus du Rwanda, du Burundi, de Goma, de Bukavu, de Kinshasa et même de Beni pour ensemble témoigner artistiquement les soucis de la jeunesse de s'unir pour la paix et la cohabitation pacifique dans la sous-région. Pour le président de ce festival, Emmanuel Chokano Kanyori, les jeunes de la région des Grands Lacs doivent comprendre que leur différence est une force pour bâtir la paix. Il revient sur les motivations de ce festival.
Vous savez, la région des Grands Lacs, c'est une région qui a traversé tant de problèmes. Les génocides au Rwanda, mutinerie au Burundi, la guerre au Congo. On a trouvé que ces choses sont restées dans la population. Nous, on a pensé que si on réunissait les jeunes afin de s'attaquer à ça à travers les dialogue afin que dans l'avenir il n'y ait plus ces choses-là.
Pour Thomas Lusango, un des artistes de Bukavu invités, il est temps que les divisions cessent dans la région des Grands Lacs africains et que les présidents respectent les constitutions de leur pays.
Nous ne voulons plus que les Grands Lacs soient divisés par des guerres ethniques, marginalisation. Nous voulons être ensemble. Au président, c'est aux Africains et surtout le président des Grands Lacs, ça mâchait les mots. Je dirais qu'il ne faut pas s'éterniser au pouvoir. Lorsque votre mandat est fini, ok, laissez aux autres continuer. Sinon, si vous vous éternisez au pouvoir, il y aura des indignés. Aïe, mamadi.
Selon l'association des jeunes des Future for All qui organise ce festival du 27 août au 1er septembre 2016, les festivaliers suivent entre autres des concerts des artistes, des projections des films produits par les cinéastes de la région, des conférences sur l'exploitation commune des richesses transfrontalières et un accent particulier placé sur le rôle des jeunes pour des élections démocratiques. Emmanuel Chokano donne les messages forts du festival.
On ne veut plus de guerre, on veut la paix et nous savons que la paix
c'est quelque chose que nous devons arracher. C'est quelque chose que nous devons inculquer, surtout dans le jeune, parce qu'ils sont le plus manipulés. Ils sont le grand lac d'aujourd'hui et de demain. Nous avons une région que nous devons protéger. Il y aura élection Miss Grand Lac, des concerts en l'expo-vente artistique de tout le pays qui sont invités. Et à travers ce festival, nous savons que Bukavu va rayonner. Nous sommes tous un et cette unité doit être visible.
Thomas Lusango explique sa chanson Mijabi.
C'est une chanson chantée en Kinyarwanda, en Kirundi et en Swahili, où j'ai dit que la guerre nous amène que des divisions et ça nous amène que des querelles. Quoi. Des fois, on se demande de ce qu'on va manger, et où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on va passer la nuit, parce que c'est l'insécurité. Il faut que ça cesse. On n'a plus besoin de la guerre. Aye, mama di,
kolia mija. Ernest Mouiro Bukavu, VOA Afrique.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Au Mali, la population a suivi de près le procès d'Almadi Al-Faki à la CPI, ce dernier étant le premier Malien à comparaître devant cette juridiction internationale pour atteinte au patrimoine culturel du Mali. En attendant la confirmation de la peine retenue contre lui, les habitants de Tombouctou ne cachent pas leur joie, mais ils veulent aussi que d'autres criminels de la crise de 2012 passent devant la Cour pénale internationale. Reportage de Kassim Traoré.
C'est au Niger qu'Almadi Al-Faki a été arrêté avant son extradition vers la Cour pénale internationale pour destruction de mausolée à Tombouctou. À l'époque, la ville était sous contrôle djihadiste avec comme chef Abou Zeid Lassana Cissé, directeur national du patrimoine culturel.
Les autorités maliennes ont été bel et bien saisies. Ils ont donné leur aval pour son transfert à la Cour pénale internationale. Donc c'est avec l'accord du Mali, ça c'est sûr. L'importance d'abord, c'est que c'est un procès inédit. Pour la première fois dans l'histoire, un destructeur, un pilleur du patrimoine est mis devant le fait accompli, c'est-à-dire répondre de ses actes devant un tribunal juridique et judiciaire. Quoi. Pour nous, c'est l'acte le plus important.
Pour bon nombre d'habitants de Tombouctou, ce procès montre combien le patrimoine culturel est important.
Il a été le cerveau de la destruction des mausolées de Tombouctou. Il court maintenant actuellement 9 à 11 ans de prison. Bon, moi, je pense que ça, c'est une peine qui est trop courte pour un terroriste qui a fait d'énormes dégâts en détruisant des mausolées, des lieux de culture, ça c'est impardonnable. Il doit avoir une peine de mort.
Au moment où la CPI a jugé Al-Faki, certains de ses patrons se pavanent entre les hôtels de Bamako au nom de la paix et de la réconciliation.
Au lieu de s'attaquer aux vrais responsables, ceux qui sont à l'origine de tout ça, les responsables derrière qui il y avait le mandat d'arrêt international élevé aujourd'hui. Mais la communauté internationale ne peut pas fermer les yeux sur ça et courir derrière des gens qui ont détruit des choses qu'on peut réparer alors que des gens ont enlevé des vies, mais on parle pas d'eux, c'est pas juste. Il faut que ces responsables là soient poursuivis, arrêtés et punis. Ils sont connus de tous. Et si la communauté internationale ne peut pas les pointer du doigt et les arrêter, nous on peut les faire. Qu'ils nous demandent.
D'autres Tomboktiens se réjouissent de l'organisation de ces procès, même s'il a un goût d'inachevé à leurs yeux.
À l'instant, ce qu'on a appris à travers les sources d'information, ils disent qu'ils courent entre 9 ans et 11 ans de prison ferme avec sursis. Pour moi, je ne suis pas du tout satisfait de cette peine. Je veux que ça soit une peine exemplaire pour que les suivants qui veulent tenter de l'aventure après, que ceci-là sache que vraiment il y a une justice internationale qui est là, qui veut juger des gens contre ce genre de crimes.
Lassana Cissé, directeur national du patrimoine culturel du Mali.
Il a dit des choses moi qui m'ont fait sourire. Il dit, bon, lui il a été instrumentalisé. Par qui hein? Il dit, il a été instrumentalisé par Acme et par Ansar. Mais soyons sérieux, s'il n'épousait pas l'idéologie, il n'a pas fait que détruire. Il a coupé des mains et des pieds. Donc ça c'est tout à fait ridicule. Maintenant, si on doit le libérer ou c'est pas le pardonner, bon, le pardon, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas être sanctionné parce que nul n'est censé ignorer la loi, il doit être sanctionné. Le pardon ne suffit pas.
À Tombouctou, les populations sont très contentes de la tenue de ce procès, mais elles ne souhaitent pas qu'elle se limite à Al-Faki seulement. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui. aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.